Disparition de Cuba. En décembre 1964, Che Guevara voyage à New York comme chef de la délégation cubaine à l'ONU où il prononce le 11 décembre un discours à l'Assemblée générale contre la politique étrangère américaine, participe à une émission télé et rencontre des personnalités aussi différentes que le sénateur Eugene McCarthy, des compagnons de Malcolm X ou les Rockefeller. Le 17 décembre, il commence une tournée internationale de 3 mois au cours de laquelle il visite la Chine, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Bénin, la République du Congo et la Tanzanie, avec des étapes en Irlande, Paris et Prague. À Pyongyang, il déclare que la Corée du Nord est un modèle dont Cuba devrait s'inspirer. À Alger, le 24 février, il fait son dernier discours sur le devant de la scène internationale où il déclare « Il n'y a pas de frontière dans cette lutte à mort. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde. » La victoire de n'importe quel pays contre l'impérialisme est notre victoire, tout comme la défaite de quelque pays, que ce soit à notre défaite. Il étonne alors son audience en proclamant « Les pays socialistes ont le devoir moral d'arrêter leur complicité tacite avec les pays de l'Ouest exploiteurs ». 2 semaines après son retour à Cuba, où il est accueilli par Fidel et Raúl Castro, il disparaît littéralement de la vie publique. Son activité en 1965 est un grand mystère étant donné qu'il est, à l'époque, considéré comme le numéro 2 du gouvernement. Les causes de sa disparition sont toujours controversées et peuvent être attribuées à diverses raisons. Astérisque échec de l'industrialisation, astérisque la pression des soviétiques et d'une partie des responsables cubains sur Castro. En effet, ceux-ci désapprouvaient l'alignement économique et idéologique communiste pro-chinois du Che, surtout à une époque où se creusait le conflit sino-soviétique et où l'économie cubaine dépendait de plus en plus de l'Union soviétique. Guevara était considéré par beaucoup comme un avocat de la stratégie maoïste en Amérique du Sud. Ses détracteurs comparaient son plan d'industrialisation au grand bond en avant chinois. Astérisque d'autres suggèrent que Castro avait pris ombrage de la popularité de Guevara et commencé à le considérer comme une menace. Ils trouvent suspectes ses explications sur sa disparition et sont surpris que le Che n'ait jamais fait une annonce publique de ses intentions. Après la crise des missiles cubains et ce qu'il a pris comme une trahison de Khrouchtchev, qui a donné son accord au retrait des missiles sans consulter Castro, Che Guevara est devenu sceptique quant au rôle de l'URSS. Comme révélé dans son dernier discours à Alger, il en est venu à la conclusion que l'hémisphère nord, mené par les États-Unis dans l'ouest, et l'URSS dans les, exploite l'hémisphère sud. Il soutient le Vietnam du Nord dans la guerre du Vietnam et encourage les peuples des autres pays en voie de développement à prendre les armes et à créer de nombreux Vietnam. Cependant, aussi bien Guevara que Castro sont partisans d'un front anti-impérialiste uni et tentent à plusieurs reprises de réconcilier l'Union soviétique et la Chine. Pressé par la spéculation internationale et les rumeurs quant au destin du Che, Fidel Castro déclare le 16 juin 1965 que le peuple sera informé à propos du Che quand lui-même l'aura décidé. Le 3 octobre, Castro dévoile une lettre non datée écrite par Guevara à son intention dans laquelle il réaffirme sa solidarité avec la révolution cubaine mais déclare son intention de partir combattre à l'étranger pour la révolution. Il annonce également sa démission de tous ses postes au gouvernement, au parti et dans l'armée. Il renonce aussi à la citoyenneté cubaine qui lui a été donnée. Castro révélera peu après qu'il savait où Guevara était mais qu'il ne le dirait pas, ajoutant que son ancien compagnon d'armes était en bonne santé. Malgré les assurances de Castro, la destinée de Che Guevara reste un mystère et un secret bien gardé pour les 2 années à venir. Congo. Pendant leur réunion durant la nuit du 14 au 15 mars 1965, Guevara et Castro se sont mis d'accord pour que le Che mène personnellement la première action militaire cubaine en Afrique subsaharienne. Des sources mentionnent que Guevara aurait convaincu Castro à le soutenir dans son effort tandis que d'autres sources maintiennent que c'est Castro qui aurait convaincu Guevara d'entreprendre cette mission, argumentant que les pays d'Amérique latine visés n'étaient pas encore dans les conditions voulues pour y établir des focaux, foyers, de guérilla. Castro lui-même affirmera que la dernière version était la bonne. D'après Ahmed Ben Bella, qui était président d'Algérie à l'époque et avait beaucoup discuté avec Guevara, la situation en Afrique semblait avoir un énorme potentiel révolutionnaire, ce qui amena le Che à la conclusion que l'Afrique était le maillon faible de l'impérialisme. C'est à l'Afrique qu'il décida de dédier ses efforts. L'opération cubaine est planifiée pour aider le mouvement marxiste Samba pro Patrice Lumumba, dont l'assassinat en 1961 avait indigné Guevara. Au Congo Kinshasa, ancien Congo belge, futur Zaïre et actuelle République démocratique du Congo. Guevara, son second, Victor Drake, et 12 Cubains arrivent au Congo le 24 avril 1965. Un contingent d'environ 100 Afro-Cubains les rejoint peu après. L'arrivée du Che est tenue, secrète même pour les membres de la guérilla congolaise. Ils collaborent un moment avec le dirigeant Laurent Désiré Kabila, avec qui ils organisent le maquis d'Ouvabora. Kabila aide alors les partisans de Lumumba à mener une révolte, qui est éliminée en novembre de la même année par l'armée congolaise. Guevara considère bientôt Kabila comme insignifiant et écrit. Rien ne m'amène à penser qu'il soit l'homme providentiel. Bien que le Che ait 37 ans et aucune formation militaire classique, il avait été réformé du service militaire argentin à cause de son asthme, chose dont il était fier à cause de son opposition au gouvernement PRE. Il a déjà fait l'expérience de la guérilla cubaine et de sa marche décisive sur Santa Clara. Des mercenaires sud-africains tels que Maïko Harré et des exilés cubains opposés au régime castriste travaillent avec l'armée régulière congolaise pour lutter contre Guevara. Ils réussissent à intercepter ses communications, tentent des embuscades contre les rebelles à chaque fois qu'ils tentent une attaque et coupent ses lignes d'approvisionnement. Bien que Guevara tente de dissimuler sa présence au Congo, le gouvernement US est informé de sa localisation et de ses activités. En effet, le National Security Agency, SA, intercepte toutes ses transmissions grâce à l'équipement du Svalde, un navire d'écoute de l'océan Indien. Le but du Che est d'exporter la révolution cubaine en formant les combattants Samba à l'idéologie communiste et aux stratégies du combat de guérilla. Mais l'incompétence, l'intransigeance, les rivalités internes des rebelles congolais sont citées dans son journal du Congo comme les raisons principales de l'échec de la révolte. Au lieu de s'assurer le soutien des populations locales, les combattants congolais pillent parfois des villages et tuent des civils. Le commandement unique n'existe pas et les chefs locaux rivalisent entre eux pour obtenir argent et matériel qu'ils emploient pour leur profit personnel. Certains responsables de la guérilla sont même assassinés par des rivaux. Enfin, les troupes inexpérimentées croient plus en la sorcellerie qu'à l'instruction militaire des Cubains, ce qui y entraînera défaite sur défaite. Après 7 mois de frustration, malade de la dysenterie et souffrant de l'asthme, débordé par les troupes de Mobutu, Guevara quitte le Congo, avec les survivants cubains, 6 membres de sa colonne sont morts sur 200. Ils doivent abandonner une bonne partie des combattants congolais faute de place dans les embarcations, qui retraversent le lac Tanganyika. À un moment, le Che estime devoir rester seul, pour combattre jusqu'au bout, comme exemple pour la révolution. Il en est dissuadé par ses compagnons et 2 émissaires spéciaux envoyés par Castro. Quelques semaines plus tard, quand il écrit la préface de son journal du Congo, il la commence avec les mots. Ceci est l'histoire d'un échec. Clandestinité. Parce que Castro a rendu public la lettre d'adieu du Che dans laquelle il coupait tout lien avec Cuba pour se dédier à ses activités révolutionnaires ailleurs dans le monde, alors qu'elle n'aurait dû être dévoilée que dans le cas de sa mort. Celui-ci sent qu'il ne pourra pas revenir à Cuba pour des raisons morales. Il passe les 6 mois suivants dans la clandestinité à Dar es Salaam et Prague où il compile ses mémoires sur le Congo et les manuscrits de 2 livres, un de philosophie et un d'économie. Il visite aussi plusieurs pays d'Europe de l'Ouest dans le but de tester une nouvelle fausse identité et les documents, passeports, etc. créés pour lui à cet effet par le GI, les services spéciaux cubains, en vue de son futur voyage en Amérique du Sud. Pendant cette période, Castro continue à demander son retour à Cuba. Guevara y consommait à condition que sa présence à Cuba reste secrète et que son séjour serve à organiser une nouvelle révolution quelque part en Amérique du Sud. Afin d'éviter tout risque de fuite, c'est même déguisé et à leur insu qu'il visitera ses enfants. Le Che hésite beaucoup à commencer une guérilla en Argentine, son pays natal, mais en est dissuadé par Fidel Castro, qui pense que l'armée argentine est beaucoup plus efficace que la bolivienne. En 1966 et 1967, la localisation du Che est toujours tenue secrète. Des représentants du mouvement d'indépendance du Mozambique disent avoir rencontré Guevara fin 1966 ou début 1967 à Dar es Salaam, où ils auraient rejeté son offre d'assistance à leur révolution. Dans un discours en mai 1967, le ministre de la Défense de Cuba annonce que Guevara sert la révolution quelque part en Amérique du Sud. Bolivie. Guérilla. En 1966, la Bolivie est gouvernée par une dictature militaire dirigée par le général René Barrientos, qui avait renversé dans un coup d'État le président élu Víctor Paz Estenssoro et mis fin à la révolution de 1952. À la demande de Castro, un terrain est acheté dans la jungle de la région isolée et montagneuse de Nancahuaz par le Parti communiste bolivien pour servir de camp d'entraînement. Ce camp est situé dans une zone géographique très éloignée des demandes de Guevara, qui s'incline néanmoins afin de ne pas perdre de temps. Il y arrive le 7 novembre 1966, jour où commence son journal de Bolivie. Auparavant, c'est déguisé en prêtre qu'il est allé rencontrer Jean Preux exilé à Madrid afin d'essayer d'obtenir sans succès l'assistance des péronistes argentins dans la guérilla bolivienne. Le groupe de 47 guérilleros est composé en majorité de Boliviens, mais aussi de 16 Cubains de l'entourage très proche de Guevara et de quelques Péruviens et Argentins. Le groupe prend le nom d'El Ejército de Liberación Nacional, Armée de Libération Nationale, avec des groupes d'appui en milieu urbain. Peu sera accompli pour créer une véritable armée de guérilla. Guevara pensait avoir l'assistance des dissidents locaux. Or, le parti communiste local est plus tourné vers Moscou que la Havane et ne l'aide pas malgré ses promesses. De plus, l'inflexibilité du Che, qui refuse de laisser le contrôle de la guérilla au PC, Bolivie plutôt que faire un compromis, n'aide pas à conclure un accord avec le secrétaire général Mario Monge, qui vient les rencontrer clandestinement. Cette tendance existait déjà lors de la campagne cubaine, mais avait été limitée par la diplomatie de Castro. L'agent de liaison principal à La Paz est Edith Marabunk Biderdit. Tania, l'unique femme du groupe, est une ancienne membre de la Stasi, aussi considérée comme un agent du KGB. Cette dernière aurait inconsciemment ou non aidé les intérêts soviétiques en mettant les autorités boliviennes sur la piste de Guevara. Le 9 mars 1967, des militaires en congé et en civil à l'empêcher rencontre des guérilleros. La rencontre est pacifique. Et le 11, deux déserteurs de l'EL sont capturés, ce qui alerte le gouvernement bolivien, qui demande alors l'aide des États-Unis et des pays voisins. Sur indication des déserteurs, le campement est découvert, ainsi que peu après de nombreuses caches, qui contiennent documents, vivres et photos qui servent à l'identification du Che par la CIA. Les guérilleros doivent abandonner leur campement, pour échapper à un encerclement de l'armée bolivienne et prendre dans leur rang des membres de la section de soutien urbain comprenant Tania, le français Régis Debray et l'argentin Ciro Bustos. Le 23 mars, les forces de Guevara sortent victorieuses de premières escarmouches contre l'armée régulière, beaucoup moins expérimentée dans un terrain difficile et montagneux. Mais, les guérilleros ne disposent plus d'un contact radio constant avec la Havane car les deux transmetteurs fournis sont défectueux, sur ce point et sur beaucoup d'autres, l'inorganisation et le manque de préparation ont fait que certains historiens suspectent même un sabotage. L'unique lien des guérilleros avec le monde n'est plus qu'un vulgaire récepteur radio. Malgré la nature violente du conflit, Guevara donne des soins médicaux à tous les soldats boliviens blessés et relâche tous les prisonniers. Le Che divise ses forces le 17 avril, afin d'extraire de la zone Régis Debray et Ciro Bustos qui ne supportent plus les conditions de vie de la guérilla et pour qu'ils puissent transmettre des messages à Cuba et aux communistes argentins. Guevara met Juan Vitalio Acunane Vilo au commandement de la deuxième colonne. Les deux groupes ne peuvent se retrouver au point de rencontre prévu trois jours après, car Vilo a été obligé de se déplacer en raison de la proximité de l'armée bolivienne. En l'absence d'un lieu de rendez-vous alternatif et n'ayant aucun moyen de communication entre eux, ils ne pourront jamais se réunir à nouveau. C'est à cette période que Guevara écrit le message au peuple du monde qui est lu à la réunion tricontinentale, Asie, Afrique et Amérique latine, à Cuba, et qui contient ses affirmations les plus radicales et accablantes. Il y propose une guerre mondiale ouverte contre les États-Unis, en pleine contradiction avec la coexistence pacifique prônée par l'Union soviétique et les partis communistes d'Amérique latine. Le Che commence le document avec une de ses phrases les plus célèbres. Créer deux, trois. De nombreux Vietnam, telle est la consigne. L'aile est durement frappée le 20 avril, lorsque Régis Debray et Ciro Bustos sont capturés. Tous deux sont torturés par les forces gouvernementales et livrent des informations clés, dont la confirmation de la présence du Che en Bolivie. Les preuves d'un accord de Debray avec la CIA, informations contre arrêt des tortures et promesses d'une peine clémente, ont été découvertes. D'autres évoquent également d'informations et de dessins donnés par Bustos en échange d'un traitement de faveur pour l'identification du groupe. Aucune version n'a pu être confirmée à ce jour, mais il semble vraisemblable qu'un ensemble de renseignements, suite à leurs interrogatoires respectifs, ait permis de rassembler assez d'éléments pour permettre aux forces boliviennes d'identifier, tracer et intercepter le groupe. Ciro Bustos vit quant à lui en exil en Suède. Guevara pense avoir uniquement affaire à l'armée bolivienne, mal entraînée et mal équipée. Cependant, quand le gouvernement américain apprend sa localisation, la CIA et les Special Forces, incluant un bataillon de United States Army Rangers basé non loin de la zone de guérilla, sont envoyés pour entraîner et soutenir les militaires boliviens. En mai, l'armée arrête les paysans soupçonnés d'aider les guérilleros et a auparavant enlevé les médicaments contre l'asthme de tous les hôpitaux de la région. De nombreux combats ont lieu durant l'été, et le 1er août, la CIA envoie deux agents cubano-américains pour renforcer la recherche de Guevara, Gustavo Villoldo et Félix Rodriguez. Ce dernier avait précédemment infiltré Cuba pour préparer l'invasion de la baie des cochons. Le 31, la colonne de Vilo Acuna qui inclut Tania est prise dans une embuscade, alors qu'elle traverse une rivière, et tous sont tués sauf un, Restituto Cabrera, qui réussit à s'échapper mais est capturé et exécuté sommairement le 4 septembre. Leurs corps sont d'abord exposés comme trophées puis enterrés clandestinement. Le dernier contact de la partie urbaine de l'aile est arrêté le 15 septembre, alors que le dernier membre des services secrets cubains a été inexplicablement rappelé au pays par son chef, Manuel Pinheiro, pro-soviétique et opposant à Che Guevara. Contrairement à ce qui s'était passé au Congo, aucune tentative n'est faite par Cuba pour aller secourir ou aider Guevara et ses hommes. Isolée, la colonne du Che est physiquement à bout, n'a plus d'eau potable et doit parfois porter son chef, qui souffre de terribles crises d'asthme. Malgré tout, Guevara a toujours la même volonté et pousse toujours ses hommes en avant, comme lors du passage d'un précipice, que les autres jugent impossible, mais qu'il franchit malgré son état. Imbécile, il n'y a rien d'impossible dans cette vie, tout est possible, les impossibilités c'est l'homme, qui les fait c'est l'homme, qui doit les dépasser. Le groupe voit sa retraite coupée vers le Rio Grande, ce qui l'oblige à remonter dans les montagnes, vers le petit village de La Higra où l'avant-garde est prise en embuscade et perd trois hommes le 26 septembre. Les 17 survivants s'échappent une fois de plus et le 7 octobre commencent à redescendre vers le Rio Grande. Capture et exécution. Les forces spéciales boliviennes apprennent par un informateur le lieu du campement de la guérilla. Plus de 1,800 soldats sont arrivés au village de La Higra. Le 8 octobre 1967, le campement est encerclé dans le ravin de Quebrada del Huro et Guevara ordonne de diviser le groupe en deux, envoyant les malades en arrière et restant avec le reste des guérilleros pour retenir les troupes boliviennes. Après trois heures de combat, le Che est capturé avec six Cuba Sarabia. Il se rend après avoir été blessé aux jambes et que la culasse de son fusil a été détruite par une balle. Selon les soldats boliviens présents, il aurait crié « Ne tirez pas, je suis Che Guevara et j'ai plus de valeur, pour vous vivant que mort, ou il vaut mieux que vous ne me tuiez pas, je suis le Che ». Cette déclaration est en totale contradiction avec le comportement du Che lors de la guérilla cubaine qu'il voulait toujours exemplaire mais pourrait être expliqué par le fait qu'il pensait que la situation était sans issue. Une autre version de sa capture indique que ce n'est qu'une fois arrêté qu'il aurait simplement murmuré « Je suis Che Guevara » pendant que les soldats cherchaient la confirmation de leurs identités dans la documentation fournie par la CIA et les services secrets boliviens, le groupe de guérilleros est dispersé. Trois hommes sont morts et un autre gravement blessé, les autres sont capturés ou tués par l'armée. Les jours suivants, cinq parviennent finalement à atteindre la frontière chilienne et sont alors protégés et évacués par le sénateur socialiste Salvador Allende, après avoir perdu un de leurs compagnons, grièvement blessé par l'armée bolivienne, qu'ils avaient alors dû achever. Selon Arrive Illega, Pombo, un des survivants, si Guevara avait choisi de fuir avec eux, il aurait survécu. Quand il est emmené et qu'il voit des soldats boliviens qui ont été aussi blessés dans l'affrontement, Guevara propose de les soigner, mais son offre est refusée par l'officier responsable. Les deux prisonniers sont emmenés dans une école abandonnée dans le village voisin de La Higra. Les corps des autres guérilleros y sont entreposés et Juan Pablo Chang, capturé le lendemain, y est détenu au milieu des cadavres. Le 9 octobre au matin, le gouvernement de Bolivie annonce la mort de Che Guevara la veille dans des combats. Au même moment arrive à La Higra le colonel Joaquín Centeno Anaya et l'agent de la CIA Félix Rodriguez. Peu après-midi, le président Barrientos donne l'ordre d'exécuter les guérilleros. Même s'il n'a jamais justifié sa décision, des collaborateurs pensent qu'il ne voulait pas d'un procès public qui aurait attiré l'attention internationale non désirée sur la Bolivie, comme cela fut le cas lors du procès de Bray. Il ne voulait pas non plus que le Che soit condamné à une peine de prison et qu'il puisse être relâché, comme Castro en son temps. Il existe des doutes et de nombreuses versions sur le degré d'influence de la CIA et des États-Unis dans cette décision. Le président Barrientos voit l'ambassadeur des États-Unis la veille de l'exécution du Che. Des documents de l'agence déclassifiés sous la présidence de Bill Clinton montrent que la CIA voulait éviter que l'aventure de Guevara en Bolivie se termine par sa mort, mais d'autres sources montrent qu'au contraire la CIA aurait fait pression pour que Guevara soit fusillé. Ce qui est certain, c'est que la CIA était sur les lieux au moment de la mort du Che. De même, plusieurs versions existent sur qui a donné l'ordre d'exécuter Guevara. Selon certaines sources, c'est l'agent Rodriguez qui reçoit l'ordre d'exécuter Guevara par radio de Zenteno et les transmet aux officiels cubains présents sur place. Selon d'autres témoignages, dont celui du Pentagone, c'est le capitaine Gary Prado Salmon, chef des Rangers boliviens, qui a décidé d'exécuter le Che, ou selon d'autres biographes, son supérieur, le colonel Zenteno, qui lui en a donné l'ordre, sur instruction de Barrientos. Rodriguez raconte qu'il a reçu l'ordre de maintenir Guevara vivant pour l'interroger lorsque la CIA apprend la capture. Un hélicoptère et un avion étaient affrétés pour pouvoir l'amener au Panama, mais le colonel Joaquín Zenteno, commandant les forces boliviennes, dit qu'il n'avait d'autre choix que d'obéir à ses supérieurs. Rodriguez donne les instructions pour l'exécution à Mario Tra, un sergent de l'armée bolivienne, afin de ne pas le défigurer et que les blessures infligées à Guevara aient l'air d'avoir été au combat. Selon les versions, Tra avait été désigné pour tuer Guevara par le hasard d'un tirage à la courte paille, parce qu'une querelle sur qui aurait ce privilège avait eu lieu dans la troupe ou sur ordre direct du colonel Zenteno. Dans le récit de Rodriguez, c'est lui qui annonce son exécution à Che Guevara. Ce dernier lui confie un message pour sa femme, les deux hommes s'embrassent puis Rodriguez quitte l'école. Cette version est contestée par le chef des forces spéciales boliviennes, le capitaine Gary Prado, qui souligne au contraire que Rodriguez n'avait eu qu'un seul échange avec Guevara. Rodriguez avait menacé le Che, qui lui avait en réponse craché au visage en l'accusant d'être un traître. Entre-temps, de nombreuses personnes ont pu venir rendre visite à Guevara, dont l'institutrice du village, qui lui apporte à manger et rapporte une réponse du Che lors de sa dernière discussion avec lui. « Pourquoi avec votre physique, votre intelligence, votre famille et vos responsabilités vous êtes-vous mis dans une situation pareille ?»« Pour mes idéaux, peu avant le Che, Simé Cuba et Juan Pablo Chang sont exécutés sommairement. » En 1977, la revue Paris Match publie un entretien avec Mario Tra qui relate les derniers instants de Che Guevara. « Je suis resté 40 minutes avant d'exécuter l'ordre. J'ai été voir le colonel Pérez en espérant que l'ordre avait été annulé. Mais le colonel est devenu furieux. C'est ainsi que ça s'est passé. Ça a été le pire moment de ma vie. Quand je suis arrivé, le Che était assis sur un banc. Quand il m'a vu, il a dit « Vous êtes venu pour me tuer ». Je me suis senti intimidé et j'ai baissé la tête sans répondre. Alors il m'a demandé « Qu'est-ce qu'ont dit les autres ?» Je lui ai répondu qu'il n'avait rien dit et il m'a rétorqué. Ils étaient vaillants. Je n'osais pas tirer. À ce moment, je voyais un Che, grand, très grand, énorme. Ses yeux brillaient intensément. Je sentais qu'il se levait et quand il m'a regardé fixement, j'ai eu la nausée. J'ai pensé qu'avec un mouvement rapide, le Che pourrait m'enlever mon arme. Sois tranquille, me dit-il, et vise bien. Tu vas tuer un homme. Alors j'ai reculé d'un pas vers la porte, j'ai fermé les yeux et j'ai tiré une première rafale. Le Che, avec les jambes mutilées, est tombé sur le sol, il se contorsionnait et perdait beaucoup de sang. J'ai retrouvé mes sens et j'ai tiré une deuxième rafale qui l'a atteint à un bras, à l'épaule et dans le cœur. Il était enfin mort. Son corps et ceux des autres guerriers morts sont emmenés par l'armée bolivienne avec l'aide d'officiers américains et d'agents de la CIA en hélicoptère à Valle Grande où ils sont exposés pour les médias du monde entier dans l'hôpital local. Des centaines de personnes, soldats, civils et curieux viennent voir le corps. Les nonnes de l'hôpital et les femmes de la ville notent sa ressemblance avec les représentations de Jésus et coupent de mèches de ses cheveux pour les garder en talisman. Les photographies qui sont prises du Che, aux yeux ouverts de naissance à des légendes telles que San Ernesto de la Higra et El Cristo de Valle Grande. Un culte religieux du Tché lié au catholicisme est apparu au début des années 1990 dans les régions de Vallée Grande et de la Hydra avec des messes dites en son nom. Après son amputation des mains par un médecin militaire afin d'authentifier le corps et de garder une preuve de sa mort, des officiers boliviens transfèrent les dépouilles dans un endroit tenu secret. Après son exécution, les militaires boliviens et Félix Rodriguez se partagent les possessions du Tché, y compris deux montres, dont une Rolex qui avait été remise au Tché par un de ses compagnons mourant, et le journal de Guevara, en Bolivie qui disparaît pendant des années. Aujourd'hui, certaines de ses affaires, y compris sa lampe torche, sont exposées au siège de la CIA. Le 15 octobre, Castro reconnaît la mort de Guevara et proclame 3 jours de deuil national. Sa mort est perçue sur le moment comme un coup sévère porté à la révolution sud-américaine et au tiers-monde. En 1997, les restes de Guevara et de plusieurs guérilleros sont exhumés et identifiés par analyse de l'ADN, puis renvoyés à Cuba. Il est enterré avec 6 de ses compagnons d'armes de Bolivie dans un mausolée situé dans la ville de Santa Clara, après des funérailles de héros national. Personnalité. La plupart des biographies montrent que la personnalité de Che Guevara est bien plus complexe et contrastée que le portrait de révolutionnaire romantique qu'en font ses partisans ou que l'image de monstre sanguinaire qu'en donnent ses détracteurs. Exemplaire et arrogant. Le Che était obsédé par le fait de montrer l'exemple en tout point pour lui-même et pour ses hommes. Non seulement en se surpassant, physiquement comme il le faisait en luttant, constamment contre son asthme dans les jungles des différentes guérillas et en fumant le fameux Havane, mais aussi en s'assignant lui-même les missions les plus dangereuses. Son groupe de guérillas à Cuba était baptisé « Peloton Suicida ». Commande suicide, les travaux les plus durs et la discipline, la plus sévère. Il commente au président Nasser lors d'un voyage officiel en Égypte. Le moment décisif dans la vie de chaque homme est quand il doit décider d'affronter la mort. S'il la confronte, il sera un héros. Qu'il réussisse ou non, cela peut être un bien ou un mal politique, mais s'il ne se décide pas à l'affronter, jamais il ne cessera d'être seulement un politicien. Il rejetait les privilèges, même les plus anodins, qui auraient pu le favoriser vis-à-vis de ses hommes, et continua de même lorsqu'il devint ministre. On commence comme cela, avec des petits privilèges, et ensuite on s'habitue et on justifie des privilèges de plus en plus grands, jusqu'à ce que le dirigeant se transforme en un assisté insensible aux besoins des autres. Le fait de pouvoir incarner cet exemple lui fit développer une certaine impatience envers les moins doués ou les moins motivés, ce qui aurait pu passer pour de l'arrogance s'il n'avait pas passé autant de temps même au cœur de la Sierra à apprendre à lire et écrire à des guérilleros souvent analphabètes. Impitoyable et humain, idéaliste et extrémiste. Che Guevara était l'adepte de solutions extrêmes dans la défense de ses idées, et pas seulement en théorie. Toujours au nom de l'exemple, il prit sur lui l'exécution de membres de la guérilla condamnés pour trahison par les guérilleros. Fidel Castro lui confia le commandement du tribunal révolutionnaire de la Cabana chargé de juger les responsables du régime de Batista, car il savait que Guevara ne montrerait aucune clémence, la sentence de ceux condamnés pour exaction ou torture était presque toujours la mort. Castro loua même sa qualité d'agressivité excessive. Pour le Che, sa conduite était dictée par la révolution mondiale, qui était une véritable lutte à mort contre l'impérialisme, et il s'en justifia officiellement. Nous avons fusillé, nous fusillons et nous continuerons à fusiller tant que cela sera nécessaire. Notre lutte est une lutte à mort. Le 11 décembre 1964, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il était prêt à se sacrifier lui-même pour un monde meilleur, comme il l'exigeait de ses hommes, et Fidel Castro le réprimanda plusieurs fois, pendant la guérilla cubaine à cause des risques qu'il prenait. À l'opposé, Che Guevara montrait de l'humanisme envers les soldats ennemis prisonniers ou blessés au combat et les soignait comme ses propres hommes depuis les débuts de la révolution cubaine jusqu'à la veille de son exécution. En Bolivie ou même prisonnier et blessé, il proposait ses services de médecin à ses geôliers. Communiste et électron libre. Bien que fervent marxiste, Che Guevara défendait la particularité de ses idées et leur application contre Fidel et Raúl Castro, ce qui valut de nombreuses disputes. Il était contre l'alignement sur le bloc soviétique, contre la bureaucratie naissante à Cuba, mais pour la centralisation, contre le gaspillage, contre l'exploitation du tiers-monde et contre les privilèges, voire la pensée de Che Guevara. Il employait un ton et un discours franc et direct, mais dénué de toute diplomatie et de calcul politique. Ceci lui attira de nombreux partisans, mais lui créa aussi de nombreux ennemis. Si à Cuba l'habileté politique de Fidel Castro permit de rattraper ce trait de caractère, ce fut une des causes de ses échecs au Congo et en Bolivie. Provocateur et spirituel. Enfin, le Che ponctuait souvent de remarques humoristiques et provocatrices ses déclarations ou conversations privées ou officielles. Ainsi, en tant que ministre de l'Industrie, il terminait une de ses lettres adressée à un psychiatre ayant édité une revue médicale spécialisée en deux fois plus d'exemplaires qu'il n'y avait de médecins à Cuba alors que le papier manquait cruellement, par la phrase « La revue est bien, le tirage intolérable. Crois-moi, parce que les fous disent toujours la vérité. » Lorsque sa deuxième fille allait d'année, Guevara est en voyage officiel à l'étranger. Au télégramme qui lui annonce « Félicitations commandant, c'est une fille », il fait une réponse à sa femme reflétant son humour argentin « Si c'est une fille, jette-la par-dessus le balcon ». Même la dernière page de son journal de Bolivie reflète cet humour dans cet ultime cas désespéré. Deux jours avant sa mort, alors que ses hommes et lui sont encerclés, affamés et épuisés, il écrit « Les 11 mois de notre commencement de guérilla se terminent sans complications, bucoliquement. » La pensée de Che Guevara. La révolution. Manifestation le 4 novembre 2005 contre une proposition d'accord commercial de George W. Bush à Mar del Plata, Argentine. Che Guevara considérait la lutte armée et la révolution socialiste comme le seul moyen d'améliorer les conditions de vie des pauvres d'Amérique latine exploités par les États-Unis d'Amérique selon lui. Son point de vue révolutionnaire suivait ceux de Marx et Lénine qu'il avait étudié exhaustivement. La révolution en Amérique latine passait pour lui par la création de foyers, de guérillas, focaux, dans un pays où existaient des conditions objectives pour une révolution. Ces focaux permettent de réunir les conditions subjectives pour un soulèvement général de la population. Il pensait qu'il y avait un lien étroit entre la guérilla, les paysans et la réforme agraire. Cette position différait de la pensée soviétique et se rapprochait des idées maoïstes. Il salua d'ailleurs le début de la révolution culturelle qui allait faire, peu après son exécution, entre 500,000 et 20 millions de morts. S'il admire depuis ses voyages et ses lectures le modèle soviétique et Staline, il commence à les critiquer sévèrement dès son passage au gouvernement cubain et développe sa propre théorie économique communiste, pour lui plus moderne et plus adaptée aux besoins du tiers-monde. Ses derniers discours furent des critiques violentes contre l'exploitation du tiers-monde par les blocs communistes et capitalistes qui étaient à l'opposé du dogme officiel. Il résume ainsi l'idéal et le mode de vie du révolutionnaire qui doit rester pour lui avant tout humain. Laissez-moi dire, au risque de paraître ridicule, que le vrai révolutionnaire est guidé par un fort sentiment d'amour. Il est impossible de penser à un authentique révolutionnaire qui ne possède pas cette qualité. Les dirigeants de la révolution ont des enfants qui commencent à parler mais qui n'apprennent pas à appeler leur père par leur nom, ils ont des femmes dont ils doivent être séparés, ce qui fait partie du sacrifice général de leur vie pour le succès de la révolution. Le cercle de leurs amis est strictement limité au nombre de leurs compagnons révolutionnaires. Il n'y a pas de vie en dehors de la révolution. Dans ces circonstances, on doit avoir une grande humanité et un fort sens de la justice et de la vérité pour ne pas tomber dans un dogmatisme extrême ou une froide scolastique, dans une isolation des masses. Nous devons nous efforcer chaque jour que cet amour de l'humanité vivante soit transformé en accomplissement réel, en acte qui serve d'exemple, en une force changeante. Cependant, cette vision idéale fait parfois place à la réalité politique et la fin justifie pour lui les moyens, comme l'avait formulé Nicolas Machiavel. À une personne qui se plaignait à lui à Cuba qu'un de ses amis avait été exécuté parce qu'il distribuait des tracts anticommunistes, Guevara répondit « Écoute, les révolutions sont moches mais nécessaires et une partie du processus révolutionnaire est l'injustice au service de la future justice. » L'homme nouveau. La révolution devait selon lui également s'accomplir au niveau individuel par la création d'un « homme nouveau ». L'individu de la société révolutionnaire doit chercher une récompense morale, solidarité et bien commun, et non matérielle. Pour lui, seule la récompense morale permet d'accéder au bonheur, la récompense matérielle étant l'apanage du capitalisme. Rechercher la récompense matérielle, comme c'était le cas en Union soviétique, verrait l'échec de la révolution communiste. Le travail volontaire, pour la communauté, en plus de celui réalisé pour subvenir à ses besoins, était un exemple des actions que devait entreprendre cet homme nouveau. Il permettait également aux dirigeants de rester en contact avec les réalités de la population. Panaméricanisme et universalisme. Selon Che Guevara, les frontières d'Amérique latine étaient artificielles et représentaient un frein pour lutter contre l'impérialisme américain. Nous croyons, et depuis ce voyage, encore plus fermement qu'avant, que la division de l'Amérique latine en nationalités incertaines et illusoires est complètement factice. Nous sommes une seule race métissée qui, depuis le Mexique jusqu'au détroit de Magellan, présente des similarités ethnographiques notables. Pour lui, la révolution était mondiale, elle était une lutte totale contre l'impérialisme. Dans ce contexte, la solidarité mondiale était l'élément le plus important pour un monde meilleur. Surtout, soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui ou que ce soit dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Héritage. Le culte du Che. Alors que des photos du corps de Guevara étaient diffusées dans le monde entier et les circonstances de sa mort débattues, sa légende commençait à s'étendre. Des manifestations contre son exécution, des articles, des hommages, des chansons et des poèmes furent écrits sur sa vie et sa mort. Les spécialistes de l'Amérique latine, conseillant le département d'État des États-Unis, reconnurent l'importance de la fin du révolutionnaire le plus glamour et ayant la réputation d'avoir connu le plus de victoires, notant que Guevara deviendrait pour les communistes et autres courants de gauche le modèle révolutionnaire qui a rencontré une mort héroïque. Mais les réactions sur les conséquences de la mort du Che suivaient typiquement des lignes partisanes. Le département d'État américain avait finalement conclu que sa mort serait un soulagement pour les gouvernements d'Amérique latine qui redoutaient des soulèvements dans leur propre pays. Ces prédictions furent fondées quand Guevara devint un puissant symbole de rébellion et de révolution pendant les manifestations étudiantes globales de mai 68. Des activistes de gauche admiraient l'apparente indifférence de Guevara aux récompenses et à la gloire et approuvaient sa justification de la violence comme nécessité pour établir l'idéal socialiste. Le slogan « Le Che vivant ». Che Live commença à apparaître sur les murs de tout le bloc ouest alors que Jean-Paul Sartre, une personnalité et théoricien du mouvement, encourageait son adulation en décrivant Guevara comme « l'être humain le plus complet de notre époque ». En dépit des controverses, le statut du Che comme icône populaire a continué à travers le monde et les époques, amenant à parler d'un « culte du Che » global. Une photographie de Che Guevara prise par Alberto Korda est devenue une des images les plus célèbres du XX siècle. Transformé en graphique monochrome, le portrait fut reproduit sur toutes sortes de supports comme des t-shirts, des posters, des tasses à café ou des casquettes, une manière plutôt ironique de faire de larges profits à partir du symbole de l'anticapitalisme. L'image de Che Guevara est à comparer à une mode globale, perdant souvent beaucoup sa connotation idéologique et politique, et le culte du Che a été parfois relativisé comme un simple romantisme révolutionnaire adolescent. À l'inverse, le journaliste Paul Berman critique vivement des films sur Guevara comme The Motorcycle Diary. Il soutient que le culte moderne du Che occulte les très importantes luttes sociales et politiques qui ont aujourd'hui lieu à Cuba contre la dictature et empêche un meilleur soutien aux dissidents comme Raoul Rivero. L'auteur Christopher Hitchens, un supporté de la révolution cubaine dans les années 1960, résume à l'héritage de Guevara ainsi. Le statut d'icône historique du Che a été assuré par ce qu'il a échoué. Son histoire est une histoire de défaite et d'isolement, et c'est pourquoi il est si séduisant. Aurait-il vécu, et le mythe du Che serait mort depuis longtemps. Des mèches de cheveux du Che, photos inédites de son cadavre et empreintes digitales ont été vendues aux enchères à Dallas le 25 octobre 2007 pour une valeur de 100 $ par Gustavo Villoldo, un des agents de la CIA qui avait participé à cette traque en Bolivie. La veuve de Che Guevara, à l'aide en marche, a protesté contre ces enchères. Outre la célèbre chanson « Hasta siempre », les chansons concernant le Che ont été nombreuses, en particulier en langue espagnole, impactant en Amérique latine. Dans les années 1990, l'échec des réformes néolibérales en Amérique latine intensifiait l'opposition au consensus de Washington, amenant la résurgence de nombreuses opinions politiques de Che Guevara telles que le panaméricanisme, le soutien de fronts populaires dans la région, la nationalisation d'industries clés et la centralisation du gouvernement. Au Nicaragua, Les sandinistes guevaristes furent réélus en 2006, après 16 ans au pouvoir, leurs supporters portant des t-shirts de Guevara. Le président bolivien Evo Morales a rendu hommage de nombreuses fois à Guevara et a installé un portrait de l'Argentin fait de feuilles de coca locales dans sa suite présidentielle. En 2006, le président du Venezuela Hugo Chavez, qui est connu pour faire ses discours avec un t-shirt du Che, accompagna Fidel Castro pour une visite de la ville natale de Guevara de Córdoba, accompagné d'une foule de milliers de personnes proclamant des slogans guevaristes. La fille de Guevara, Aleda, écrivit un livre d'entretien avec Chavez où il explique ses plans pour la nouvelle Amérique latine. Guevara reste une des inspirations de la structure socio-économique des FARCEP, les forces armées révolutionnaires de Colombie et de l'armée zapatiste de libération nationale au Mexique. Héritage à Cuba. À Cuba, la mort de Guevara précipita l'abandon de la guérilla comme instrument de politique étrangère, accélérant un rapprochement avec l'Union soviétique et le remaniement du gouvernement selon des critères soviétiques. Quand des troupes cubaines retournèrent en Afrique dans les années 1970, ce fut dans le cadre d'une expédition militaire à grande échelle et le soutien des mouvements révolutionnaires en Amérique latine et dans les Caraïbes devint logistique et organisationnel. Cuba abandonna également les plans de Guevara de diversification économique et d'industrialisation qui étaient impraticables dans le cadre du Comecon. Dès 1965, le journal yougoslave communiste Borba observa de nombreuses usines abandonnées ou jamais terminées à Cuba, héritage du plan d'industrialisation raté. L'État cubain continua à cultiver le culte de personnalité du Che, inaugurant de nombreuses statues et œuvres d'art en son honneur, sur tout le territoire, décorant les écoles, les lieux de travail, les bâtiments publics, produisant des affiches et des billets à son image. Les enfants du pays commencent chaque jour d'école avec le chant, point d'exclamation inversé Pionero por el comunismo, seremos como el Che. Pionniers du communisme, nous serons comme le Che. Le mausolée de Che Guevara à Santa Clara est devenu un signe de signification presque religieuse pour beaucoup de Cubains pendant que le tourisme bénéficiait grandement de l'intérêt international pour le Che. Sur 205, 832 personnes qui visitèrent le mausolée en 2004, 127, 597 étaient des étrangers. Héritage politique en France. L'héritage de Che Guevara en France est essentiellement revendiqué par l'extrême gauche. Pour le courant communiste, Che Guevara est un révolutionnaire hors norme qui a marqué l'histoire de son empreinte et dont la pensée politique est toujours d'actualité. Son exécution sommaire est considérée par eux comme un véritable assassinat. Le porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, Olivier Besancenot, considère que la pensée de Che Guevara est une source d'inspiration inépuisable, qu'il était un marxiste humaniste opposé aux exécutions sommaires et au terrorisme, pas une icône mais un homme faillible qui néanmoins joignait ses paroles et ses actes. Il critique cependant un certain élitisme et une vision sacrificielle du militantisme. Controverse. Certains historiens, mais aussi les opposants d'Ernesto Guevara, parmi lesquels on trouve la majorité des Cubains en exil, des militants anticommunistes, ainsi que des réfugiés d'autres pays communistes, le considèrent comme un tueur et un terroriste, un bourreau fanatique. Ils pensent que Che Guevara a été, personnellement responsable, de l'exécution de centaines de personnes dans les prisons cubaines, surtout lorsqu'il commandait la forteresse de la Cabana. En 2005, Carlos Santana ayant arboré un t-shirt du Che à la cérémonie des Acadans Mi Hard, le musicien de jazz d'origine cubaine Paquito Drivra lui écrivit une lettre ouverte le fustigeant pour son soutien au boucher de la Cabana, car son propre cousin y avait été fusillé. D'après Drivra, son parent fut emprisonné en raison de sa foi chrétienne et assista aux exécutions d'un grand nombre d'autres chrétiens dans cette prison. Pour l'historien Jean Ortiz, ses détracteurs, principalement Jacobo Machover, ne font pas œuvre d'historien car leur démarche ne repose que sur des témoignages d'opposants qui n'ont pas de source historique. Selon lui, il s'agit d'une entreprise politique visant à criminaliser le Che et à travers lui ceux qui prônent un changement de société. Il leur reproche aussi de sortir de son contexte la période de la chute de la dictature de Batista où des tribunaux ont répondu à la demande de justice du peuple. Jean Ortiz affirme que ce sont des criminels qui ont été exécutés et que cette épuration a été plus limitée que celle de la libération en France. la légitimité des jugements révolutionnaires et exécutions menées par le gouvernement cubain sont toujours sujets d'un intense débat entre sympathisants et opposants de la révolution cubaine. Pour Samuel Farber, d'origine cubaine, le système cubain de camps de travail, une incarcération administrative et non judiciaire, mis en place par Guevara, sert aujourd'hui à emprisonner les opposants au régime castriste, mais aussi ceux considérés comme « déviants » socialement par le régime de par leurs croyances religieuses ou leur orientation sexuelle. Ses détracteurs arguent qu'il n'aurait jamais eu son diplôme de médecine, et que contrairement à sa légende le décrivant comme un combattant extraordinaire, il serait en réalité un piètre tacticien. Il aurait échoué dans sa tâche de gestion de l'économie cubaine, alors que Cuba avait été, avant la dictature de Batista, un des quatre pays les plus dynamiques d'Amérique latine. Quasi effondrement de la production de sucre, dont le premier client était, il est vrai, les États-Unis. Échec de l'industrialisation et introduction du rationnement total. Bien que la plus grande opposition aux méthodes de Guevara vienne de droite, des groupes anarchistes et libertarianistes considèrent Guevara comme autoritaire, stalinien et responsable de la création d'un régime bureaucratique et totalitaire. Ses détracteurs ont aussi théorisé que les révolutions inspirées par le Che ont en fait renforcer la répression et les dictatures militaires latino-américaines pendant de nombreuses années. Pour Jacobo Machover, journaliste cubain en exil, le Che, loin de représenter un marxisme original dans sa version cubaine, le dépeint comme un marxiste des plus orthodoxes fidèles aux lignes impulsées par le Comintern. Che a été critiqué également par des marxistes en général sur deux points. Tout d'abord, il aurait sous-estimé le rôle des salariés dans les villes, à la fin de sa vie il semblait déconnecté, par exemple, des grèves de masse en Bolivie. Deuxièmement, il a été critiqué pour volontarisme. L'idée que la volonté révolutionnaire, et non pas l'analyse des conditions matérielles et des consciences, constituait l'élément clé dans un processus révolutionnaire. Famille. Ernesto Guevara se marie à deux fois et eut 6 enfants de 3 femmes différentes. Il se marie avec l'économiste communiste péruvienne Hilda Galda, 1925 à 1974, le 18 août 1955. Ils ont une enfant, Hilda Beatriz Guevara Gada, 1956 à 1995, qui naît au Mexique alors que Guevara participe à la guérilla cubaine. Ils divorcent un mois après, le 9 juin 1959, Guevara se remarie avec Aleda March, 1936, qu'il a rencontrée en 1958, avant la bataille de Santa Clara. Ils ont ensemble 4 enfants, Aleda Guevara March, 1960, Camilo Guevara March, 1962. Baptisé en l'honneur de son ami décédé Camilo Cienfuego, se lie à Guevara March, 1963, à qui Guevara donne le prénom de sa mère, et Ernesto Guevara March, 1965. Guevara a également un enfant, Omar Pérez, 1964, issu d'une relation extra-conjugale avec Lydia Rosa Lepe. Bien que ce fils n'ait jamais été reconnu par Che Guevara, c'est lui qui choisit son prénom. Surnom et pseudonyme. Astérisque, Che est une exclamation traduisible par « homme », particulièrement employée en Argentine, plus précisément par ceux de la marge occidentale du Rio de la Plata, les « porte-noces ». Che veni acá, qui signifie « toi, viens ici », Che, vous, est, toi, et qui, par extension, est employé en Amérique centrale et à Cuba pour désigner les Argentins. Ce surnom ne désignera plus que le seul Che Guevara au cours du temps, ce dernier ponctuant toutes ses phrases par « Che ». Une autre hypothèse, moins vraisemblable, viendrait de son accent particulier. Il aurait prononcé les « s » comme des « ch », ce qui lui aurait valu le surnom de « Che » par dérision. Astérisque, le nom de code d'Ernesto Guevara lors de son passage au Congo était « at ». Ce mot signifie le chiffre 3 en swahili, langue locale. Il fut surnommé Tat Muganga, car il était médecin. En effet, Muganga signifie « celui qui soulage du mal » en swahili. Astérisque, les noms de code d'Ernesto Guevara, lors de son passage en Bolivie, furent Romeu puis Fernando, après l'arrestation de Régis Debray. Astérisque, pendant son voyage avec Granado, son surnom est fusé venant de « furibudo », coléreux, et de « Serna », Guevara de la Serna. Œuvre. Che Guevara était un auteur prolifique qui écrivait son journal ou des notes pour ses ouvrages presque quotidiennement, même au cœur des opérations de guérilla.